VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. RDC, l'Internet a été rétabli dans la nuit de lundi à mardi dans le pays après 3 jours d'interruption décidée par le gouvernement congolais à la veille de marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, initié par un collectif catholique. Ce rétablissement est intervenu après minuit, selon plusieurs témoignages. Vendredi dernier, le ministre congolais des Postes, Téléphones et Télécommunications, Emery Okundji, avait instruit les opérateurs de téléphonie mobile de couper l'Internet et le système de SMS pour des raisons de sécurité d'État à partir de samedi à 18h. Au Tchad, les élections législatives reportées pendant des années auront finalement lieu en 2018. C'est ce que le président Idriss Déby Itno a annoncé dimanche lors de son discours de nouvel an. Pour le politologue Evariste Ngardem Olde, enseignant à l'université de N'Djamena au Tchad, cette annonce est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle pour cette année qui commence, simplement parce que les Tchadiens avaient réclamé cela depuis l'expiration donc du mandat de l'actuelle législature. Mais il faut également dire qu'il y a beaucoup de pressions qui ont été faites de part et d'autre, notamment par la France et puis par l'Organisation internationale de la francophonie. Et il a fallu que le gouvernement tchadien, en l'occurrence le chef de l'État, puisse se résoudre à convoquer donc le corps électoral pour les élections législatives. Donc il y a d'abord la volonté des Tchadiens donc à quitter cette situation de semi-crise qu'on vivait depuis la fin du mandat actuel des députés. Il fallait sortir de cette situation et le fait de décider que les députés puissent renouveler leur mandat est une très bonne chose. Et puis, n'oublions pas les pressions qui ont été exercées, ça et là, sur le gouvernement.
Evariste Ngardem Olde, politologue et enseignant à l'université de N'Djamena au Tchad. Au Burundi, le gouvernement burundais a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020. Le président Pierre Nkurunziza veut briguer un nouveau mandat de 7 ans. Il projette de la nouvelle constitution à soumettre au référendum en mai 2018, modifie notamment le mandat présidentiel. L'opposition dénonce un vol organisé contraire à la constitution en vigueur qui ne parle de solidarité nationale qu'en cas de catastrophe nationale. À Bujumbura, les détails avec notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Une ordonnance présentée la semaine dernière par les ministres de l'Intérieur et des Finances impose au Burundi une taxe obligatoire pour tous les agents de la fonction publique d'une somme variable selon leurs revenus pour la période qui démarre à la fin de janvier 2018 jusqu'à la fin de décembre 2019, à la veille des élections programmées en principe en 2020. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Vandaguié, donne plus de précisions.
Chaque ménage pour les agriculteurs doit payer 2000 francs par an. Pour les jeunes en âge de voter, ils vont payer 1000 francs annuellement. Pour les fonctionnaires qui ont jusqu'à 50 000 francs comme salaire mensuel, ils vont payer 500 francs le mois entre 50 et 100 000. 1000 francs entre 100 et 200 000, ils vont payer 2000 francs mensuels. Entre 200 000 et 1 franc jusqu'à 500 000, ils vont payer 5 000 francs burundais. Pour ceux qui touchent entre 5 100 et 1 million de francs, ils paieront 30 000 francs mensuels. Mais pour ceux qui touchent plus de 1 million mensuel, il est prévu qu'ils payent l'équivalent de leur salaire pour toute l'année 2018 et 2019.
Cet habitant de la capitale qui travaille à la fonction publique depuis plus de 6 ans indique que son salaire de 100 000 francs burundais, presque 50 dollars américains, ne lui permet pas de lier les deux bouts du mois.
Déjà, on touche un peu d'argent pour vivre les deux bouts du mois. Déjà, on survit, alors on ne sait pas comment on va survivre avec cette décision. C'est injuste parce que déjà, on touche rien. Et si on nous tranche du salaire, on n'aura rien. Nos enfants, pour le déplacement, la vie coûte cher maintenant. Et c'est l'État qui va s'arranger. pour chercher d'autres financements par sur les fonctionnaires.
Pour les Burundais dans le privé, leur contribution dépendra de leur volonté. Et pour les journalistes, Jean de Dieu Saint-Guillaume va aujourd'hui analyste. Les Burundais qui vivent avec moins de 1 dollar par jour est incapable de cotiser pour les élections. Jean de Dieu Saint-Guillaume va.
Le gouvernement avait imposé aux gens de financer les élections. Or, demander à la population burundaise de financer des élections de 2020 aujourd'hui, c'est demander d'y aller à une vache qui vient de passer pratiquement 2 ans sans paître. C'est aux populations burundaises de demander au gouvernement de chercher des voies et moyens de les nourrir. Et maintenant, la situation est renversée. Politiquement, le Burundi a disparu de la scène internationale. Le gouvernement devrait plutôt chercher à se réconcilier avec la communauté internationale, avec des bailleurs, des organismes internationaux qui traditionnellement financent ces élections.
Le président Pierre Nkurunziza a lancé cette campagne en août dernier en déposant à la Banque de la République du Burundi 5 millions de francs burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le chef historique du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a revendiqué les dernières attaques commises dans le nord-est du pays dans une vidéo envoyée ce lundi à l'AFP. « Nous sommes en bonne santé et rien ne nous est arrivé », affirme le leader du groupe islamiste. Il ajoute « Nous avons mené les attaques sur Maïdougouri, à Gamboru et à Damboa. Nous revendiquons toutes ces attaques », a-t-il ajouté dans cette vidéo, la première depuis le mois d'août, en s'exprimant en arabe puis en langue haoussa. Nigeria, toujours, des hommes armés ont tué 14 fidèles revenant d'une messe de minuit célébrée à Port Harcourt dans le sud du pays. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, Michel Joseph.
La fusillade a eu lieu dans la ville d'Omoku, grand centre pétrolier et capitale de l'État de Rivers. Les hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de fidèles vers minuit et demi. 14 personnes sont mortes sur les lieux et 12 autres blessés ont été transportés à l'hôpital et reçoivent des soins. Le responsable de la communication de la police de l'État de Rivers, Namdi Omoni, a précisé que le nombre des victimes n'était pas encore confirmé officiellement. Il a indiqué qu'une chasse à l'homme a été lancée pour arrêter et juger les auteurs de ces crimes. L'État de Rivers connaît une pauvreté malgré les richesses générées par la production du pétrole. Plusieurs bandes criminelles puissantes se livrent souvent à de violentes guerres pour le contrôle de territoires.
En Égypte, 5 personnes ont été exécutées par pendaison ce mardi, dont 4 pour un attentat à la bombe. Ces pendaisons interviennent quelques jours après celles de 15 personnes reconnues coupables d'attaques terroristes contre des militaires et des policiers dans le Sinaï. Il s'agissait de la plus importante exécution collective en Égypte depuis la pendaison de 6 djihadistes en 2015. Et puis en Iran, 9 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans plusieurs villes de la province d'Ispahan, dans le centre du pays. Ces victimes ont perdu la vie lors de violences liées au mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis jeudi dernier. Les précisions d'Eric Manirakiza.
6 manifestants sont morts dans des affrontements avec les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut un poste de police à Kardarijan. Un enfant de 11 ans a été tué et son père blessé par des tirs de manifestants à Komenchichar alors qu'il passait près d'un rassemblement. Un jeune membre des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime a par ailleurs été tué et un autre blessé par des tirs de fusil de chasse à Karisang. Les autorités avaient en outre déjà fait état hier soir de la mort d'un policier tué par des tirs d'armes de chasse à Najafabad. Une centaine de personnes ont été arrêtées hier soir dans la province d'Ispahan, selon la télévision d'État. Au total, 21 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations jeudi contre les difficultés économiques et le pouvoir qui ont débuté à Mashhad, deuxième ville du pays dans le nord-est.
Pour terminer, le gouvernement pakistanais a convoqué ce lundi l'ambassadeur américain à Islamabad suite aux menaces du président Donald Trump de supprimer l'aide des États-Unis au Pakistan, accusé de ne pas faire assez dans la lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur David Hale a été invité au ministère pakistanais des Affaires étrangères, a déclaré un porte-parole de l'ambassade américaine en ajoutant « il y est allé et a rencontré des responsables. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la teneur de la réunion ». Fin de citation. Pas de commentaire non plus du ministère pakistanais des Affaires étrangères. La convocation s'est tenue après un tweet de Donald Trump, très dur contre le Pakistan, lundi, où le chef de l'exécutif américain accuse Islamabad de n'avoir rien donné en échange d'une aide américaine de 33 milliards de dollars en 15 ans. Le Pakistan a rapidement rétorqué avoir aidé les États-Unis à décimer Al-Qaïda pour n'obtenir en retour que des invectives et de la méfiance. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.